Espace Public, vous êtes sur Couleur FM. Espace Public dédié aux élections départementales 2015, les 29 mars prochains. Vous allez être invité à aller voter pour les prochains conseillers départementaux. Conseillers départementaux qu'on appelait des conseillers généraux avant, qui vont siéger au conseil départemental qu'on appelait le conseil général auparavant. Et après avoir procédé à un vote pour des binômes, hommes et femmes, représentant les différents partis politiques, dans maintenant 28 cantons au lieu de 59. Nous recevons aujourd'hui Madame Myriam Yilmaz et Monsieur Alain Cotalorda pour le Parti Socialiste notamment. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je vous propose de commencer par une petite carte de visite d'identité pour vous présenter ou représenter largement à nos auditeurs. Myriam Yilmaz, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes en trois mots?
Donc je suis maman de deux enfants, j'ai 36 ans, je suis actuellement responsable développement pour un syndicat d'entreprise, donc plutôt en charge du développement de l'entrepreneuriat sur la région Rhône-Alpes, sous une forme un peu particulière qui sont les formes de coopératives de salariés, et par ailleurs je suis conseillère municipale d'opposition sur Bourgoin-Jallieu depuis 2014.
Voilà, monsieur Cotalorda, c'est une représentation, tout le monde vous connaît certainement parmi nos auditeurs, mais on ne sait jamais.
Je suis aujourd'hui président du conseil général de l'Isère, après avoir été élu local, Bourgoin-Jallieu, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère.
Voilà, ancien maire de Bourgoin-Jallieu, naturellement, et vous avez pris la suite d'André Verlini au Conseil Général il y a quelque temps, au Conseil Général qui devient un Conseil Départemental, on le répète, et pour lequel vous vous présentez maintenant. Alors, peut-être d'abord un petit point sur cette réforme pour ces élections. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est cette économie de canton, cette nouvelle manière de procéder à l'élection? Est-ce que ça va dans le bon sens? Comment on va finalement retrouver ces articulations entre le département, la commune, la communauté d'agglomération, la région qui va devenir très très grande? Quelle est votre vision d'élus locaux là-dessus?
Je veux bien commencer avec deux remarques, deux réactions, une nationale et puis une iséroise. Alors, au plan national, d'abord, je crois qu'il faut clairement dire que, contrairement à ce qui avait été annoncé, les départements ont toujours l'avenir devant eux et qu'il n'est plus question de supprimer les départements, ne serait-ce parce que personne aujourd'hui ne souhaite, n'est en mesure de reprendre leur compétence majeure qui est la solidarité.
De par, tous les âges de par l'élargissement des régions, ils vont reprendre d'autant plus de pouvoir dans les zones rurales, justement.
Oui. Oui, tout à fait. Alors, donc les départements continuent à exister, les transferts de compétences seront, tout compte fait, assez limités. L'économie, ce qui me paraît totalement logique, régions, métropoles, grandes intercos, c'est là le bon niveau pour soutenir les entreprises, les filières économiques, et les transports. Donc, transport interurbain, transport scolaire, si la loi va au bout telle qu'elle vient d'être validée par le Sénat puis le Parlement, ce sera la région qui reprendra ses compétences. Pour l'Isère, moi je dis de façon, c'est pas provocateur, mais je dis que sur l'Isère, la réforme territoriale, elle est déjà faite. On n'a pas eu besoin d'attendre ni les sénateurs, ni les parlementaires. Aujourd'hui, nous avons mis en place une organisation très décentralisée, déconcentrée, avec 13 territoires. 70% des services, des agents du département sont dans les territoires et il reste à améliorer une gouvernance politique par territoire, dans les maisons du territoire, qui est déjà bien engagé entre les élus locaux, surtout ceux des intercommunalités, les maires, les élus du département et les élus de la région. Et c'est le sens du protocole que j'ai signé récemment avec Jean-Jacques Kerran et André Valigny pour mettre en route une logique de gouvernance politique sur nos compétences en mutualisant, par exemple, les services des collèges et des lycées. Nous resterons compétents pour les collèges, la région pour les lycées, mais nous allons nous mettre ensemble dans les territoires pour mutualiser, gérer collectivement collèges et lycées.
en complément, donc pour préciser quand même ce qu'on va garder, donc c'est clair que pour nous il y a deux champs sur lesquels le Conseil général va continuer à s'investir. La solidarité sociale qu'a évoqué Alain tout à l'heure sur l'accompagnement de tous les âges de la vie, et ce qu'on appelle la solidarité territoriale, c'est-à-dire s'assurer de l'égalité financière dans les territoires et donc de partager avec les communes et les intercos un certain nombre de politiques. Et là, y compris, on parle de l'accès, enfin, du sport, de la culture et du tourisme, qui seront là des politiques qui seront partagées avec les autres niveaux des territoires. Donc, si on résume, voilà, solidarité sociale et solidarité territoriale resteront les compétences cœur du Conseil général de l'Isère demain.
Alors, question peut-être un peu provocante, est-ce que tout ça est sûr? Parce que finalement, la loi sur les compétences des conseils départementaux n'est pas encore faite.
Mais effectivement, le débat n'est pas terminé. Il y a eu le vote des deux assemblées. Il va y avoir une commission mixte. Les choses peuvent encore un peu bouger. Mais je crois aujourd'hui que le Sénat ne joue pas l'obstruction. Gérard Larcher l'a dit très clairement. Il souhaite faire entendre la voix du Parlement des collectivités. Il l'a fait de façon raisonnable. Et je crois qu'il y a un consensus aujourd'hui qui s'est dessiné pour maintenir un rôle important des départements, pour valider l'extension des régions et pour mettre en œuvre une nouvelle étape de renforcement des intercommunalités. Autre élément qui est important, suppression de la clause générale de compétence des régions et des départements et début de spécialisation des compétences régions et départements. On va donc, c'est une première étape, vers une simplification de notre organisation territoriale et dans le cas de l'Isère, vers une mutualisation, un travail collectif commun dans la proximité, intercommunalité, département et région. Ça donnera progressivement une porte d'entrée unique pour des services publics de proximité auxquels contribueront ces trois niveaux de gestion des territoires.
Est-ce que vous n'avez pas peur, vous, de cette disparition de la clause de compétence générale ?
Non, parce que on se rend compte que lorsqu'on décide, on va dire, de soutenir telle ou telle initiative locale, en fait, on a les outils au niveau du Conseil général pour pouvoir le faire. C'est ce qu'on appelle les aides aux communes, par exemple, qui sont quand même des enveloppes financières importantes et sur lesquelles nous, on souhaite continuer à avoir un engagement fort, permettront de pouvoir soutenir des initiatives locales, et y compris le développement des services et du développement économique local, donc et des services de proximité. Donc je pense qu'on aura toujours cette capacité à pouvoir, et il faut qu'on garde d'ailleurs cette capacité, à pouvoir intervenir à proximité et au service des besoins de la population et non pas de manière dogmatique, comme on peut le voir sur aujourd'hui, en tout cas dans certains programmes de candidats. Donc c'est vraiment être au plus près des besoins de la population, et les outils, on continuera en tout cas à les avoir et à les défendre au niveau du Conseil général.
Peut-être pour compléter en deux mots, je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui, peut-être des citoyens plus que des élus, que les collectivités ne peuvent plus tout faire dans tous les domaines. Il faut que la gestion des services publics, des politiques publiques, soit simplifiée, soit clarifiée avec des responsables, des chefs de file. Je pense que ça sera à terme source de clarification, d'économie et d'un meilleur service rendu.
Alors les économies, est-ce qu'on peut en faire encore tant que ça? Que vont devenir tous ces territoires ruraux qui sont dans le Nord-Isère, notamment en Isère, face à la baisse généralisée des financements des collectivités territoriales, du Conseil général puis départemental aussi évidemment, et ça a déjà eu lieu? Comment continuer à dynamiser, à vivifier cette vie rurale qui est de plus en plus oubliée finalement des politiques publiques?
Je reviens sur ce que Myriam m'a dit et qui me paraît fondamental. Le débat sénatorial et parlementaire a reconnu, rendu officielle une compétence qui était informelle des départements, c'est celle de l'équité entre les territoires. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des disparités de richesse, de démographie, d'implantation des entreprises. Il y a donc des territoires qui ont plus de ressources, plus de moyens que d'autres. Et le principe de notre République, ça doit rester l'égalité de tous les habitants, de tous les citoyens dans l'accès aux services. L'État l'oublie un peu parfois, ou l'État, plus exactement les grands groupes publics hier, privés aujourd'hui. Et le rôle du département, c'est bien de s'assurer que nous traitons et nous traiterons encore plus demain des territoires de montagne, des territoires ruraux enclavés, des agglomérations, de façon équitable, avec une répartition de l'argent public le plus équitable possible entre tous les territoires.
Très bien. Alors, on va retourner dans la proximité avec Mathieu, notre reporter à Couleur FM. On s'est baladé dans les rues de Bourgoin-Jallieu et on a posé quelques questions aux Bergaliens pour savoir un petit peu leur rapport avec le département, justement. On les écoute.
C'est important, comme tout devoir citoyen démocratique. Peut-être moyen. Alors, les collèges, les transports, les écoles locales, les moyens, on va dire, généraux du quotidien, je pense. Parce qu'en fait, général, ça ne veut rien dire. Départemental, ça donne une identité, je suppose.
Je pense que le conseil général devrait disparaître. Mais je vais aller voter quand même.
Je ne me sens pas très concernée, en fait, par ces élections. Ben, on a très peu d'informations sur les personnes qui se présentent, sur leur, ce qu'elles vont faire, surtout sur leur rôle, le rôle qu'elles ont, en fait.
Ben, les élections départementales, d'ailleurs, pourquoi elles ont eu lieu? Puisque tout le monde voulait l'enlever, le conseil. Donc, pourquoi ils se présentent tous, déjà? Oui, bien sûr, on a toute la liste.
T'es bien informé.
Oui, sur le Dauphiné, même les papiers qu'il distribue, quoi. Les prospectus, hein. Non, on est informé. Mais ce qui est bizarre quand même, c'est que on va voter un conseil général qui vous est supprimé et que maintenant ils sont tous pour le garder.
Bien voilà, petite instantanée de vie bergalienne qui donne une petite impression comme ça. Il est vrai que cette impression que ces élections sont très peu médiatisées, que les politiques ne se sont pas forcément enthousiasmés par rapport à elles. Et puis on entend cette petite incompréhension face aux tergiversations du pouvoir central qui un jour veut retirer le département, un jour décide de le remettre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que cette institution, vous qui êtes monsieur Cotalorda, qui êtes président aujourd'hui du Conseil général, est-ce que cette proximité est suffisante finalement?
Alors, on peut toujours faire mieux. Nous avons pris conscience, il y a 6 ans, de le département de l'Isère est grand, mais que pour des Nord-Isérois, pour des habitants de l'Isère rhodanienne, pour des entreprises, des artisans, des agriculteurs, Grenoble était très loin. C'est bien ce qui nous a amené à mettre en œuvre ce que j'ai appelé tout à l'heure cette territorialisation. Aujourd'hui, il y a 13 maisons du territoire qui représentent les services, les politiques, toutes les politiques du Conseil général. Un agriculteur qui a besoin d'un renseignement sur des aides à l'installation d'un jeune agriculteur. Une famille qui cherche à savoir les droits de ses parents en matière de maintien à domicile. Il a toutes les réponses au sein du territoire, avec les responsables de tous les services, collège, culture, social, solidarité. Moi, ce que j'ajoute également, qu'on ne sait pas suffisamment, et bien évidemment qu'on ne dit peut-être pas suffisamment, le lien social sur tous les âges de la vie. Chaque année, le Conseil général vote plus de 600 millions d'euros pour permettre le maintien à domicile, pour accompagner les enfants bousculés par la vie de leurs parents, par les difficultés de la vie familiale, etc. Pour accompagner les personnes handicapées. Toutes ces questions, l'insertion sociale également, relèvent des politiques mises en œuvre et des aides apportées par le département. Nous sommes tous concernés par cette responsabilité du lien social et de la solidarité qu'exercent les élus du département.
Est-ce que, Myriam Yilmaz, vous pensez que la conscience de tout ça est partagée par tout le monde ?
Moi, ce que j'ai entendu aussi ce matin, puisque ce matin on était sur Champfleury et notamment sur le marché, c'est vrai que les gens nous demandent à quoi servent cette élection, quand est-ce que ça a lieu. Ils sont surpris parce que pour eux, on sort d'une élection il y a un an, donc ils s'interrogeaient, ils pensaient qu'on était encore sur les élections plus locales, donc municipales. Et on connaît un peu les intentions d'abstention, on va dire, sur cette élection. Donc il y a un peu un désaveu du politique en général de la part de la population, et là-dessus je pense qu'on a une part de responsabilité, nous en tant qu'élus, de ne pas suffisamment s'adresser à la population entre les différents mandats. Et ça, c'est déjà un constat qu'on avait fait sur, en tout cas pour ma part, sur le précédent mandat qui était de 2008 à 2014, où on a eu du mal à faire vivre la démocratie locale, ce qu'on appelle la plus génériquement la démocratie participative. Et il faut qu'on se réinvente des formes d'échange et de participation pour que les personnes s'intéressent à la chose publique, non pas uniquement au moment des élections, mais aussi entre ces temps-là, et qu'on soit plus en réponse à des interrogations qui peuvent exister, et qu'on aille plus au contact des personnes entre les différents mandats. Et là, pour ma part, en tout cas, je suis convaincue que ça favorisera l'intérêt et la citoyenneté, ça éveillera un peu plus les consciences et l'intérêt porté aux élections. C'est d'ailleurs une des nouveautés, on va dire, dans le programme qui est proposé et qui est porté là à l'échelle du département, mais qui se traduira sur le canton, c'est la création des comités citoyens. C'est la mise en place de comités sur chaque canton et sur lequel nous, on s'engage demain, si on est élu, à venir rendre des comptes ou à interroger ce comité citoyen à des périodes qui seront à définir, mais à minima 2 à 3 fois par an, pour permettre justement de pouvoir faire le lien entre les interrogations qu'on a et les décisions qu'on souhaite prendre, pour les confronter à des comités qui seront composés pas uniquement de personnes qui sont engagées par ailleurs, mais des citoyens qui souhaitent s'engager sur on va dire, plus dans le sens de l'intérêt général, dans le sens de l'intérêt public, et qui peuvent ou pas être déjà des militants. Et donc nous, on a commencé sur notre canton à mobiliser des personnes sans étiquette politique, ça c'est clair, voilà, parce qu'on est vraiment autour de la citoyenneté, pour leur demander leur avis sur la création et leur investissement potentiel sur le comité citoyen. Et on a plutôt des échos favorables en nous disant bah, effectivement, c'est là où il faut aller, parce qu'il faut permettre de donner une place aux citoyens en dehors des phases électorales. Donc effectivement, il faut qu'on avance sur ces questions-là. Mais oui, ce qu'on a entendu comme témoignage, c'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend, nous, depuis un mois, depuis qu'on fait campagne.
Très bien. Alors, on a dépassé un petit peu le temps de l'émission. Traditionnellement, on vous a demandé de nous conseiller une petite chanson. Et on va la passer tout de suite. C'est Brassens. Et vous allez nous expliquer après pourquoi.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tout ce qu'il avait, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à force et l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus goût le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater
On a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idée. Mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente. D'accord mais de mort lente. Les saints Jean Bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs, s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplante bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord mais de mort lente, d'accord mais de mort lente.
Pardon à Georges Brassens, on le coupe en plein milieu, mais justement, on va continuer à parler d'idées. Myriam Yilmaz, pourquoi vous avez tenu à cette chanson? Vous me disiez qu'elle était particulièrement d'actualité.
Je la trouve particulièrement d'actualité puisque il suffit des deux premiers vers en fait de Brassens pour rendre absurde l'expression qui sert de titre, mourir pour des idées, puisque plus loin il dit mourir pour des idées mais de mort lente. Et c'est en somme, d'accord, vivre pour défendre ses idées, mais il critique en même temps ceux qui vont jusqu'au sacrifice de la vie pour mourir pour des idées. Donc il critique toutes les idéologies qui amènent des gens à se sacrifier pour mourir. Et je trouvais que c'était quand même assez d'actualité par rapport à ce qu'on a vécu depuis le début de l'année. Donc j'ai repensé à cette chanson tout récemment. Et donc quand vous m'avez demandé une chanson, spontanément j'ai pensé à celle-ci.
Oui, ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on parlait tout à l'heure de territoires ruraux, et on compare souvent en termes politiques, sociologiques, les territoires ruraux avec les quartiers populaires. Le Conseil général départemental a de nombreuses compétences en termes d'action sociale, justement. Est-ce qu'on peut faire quelque chose à ce niveau-là?
Alors, il y a forcément à inventer, à imaginer des réponses au mal-être d'une partie de nos concitoyens, mais plus uniquement dans ce qu'on appelle traditionnellement les quartiers difficiles, enfin politiques de la ville. Moi, j'ai la conviction que les lotissements excentrés dans le périurbain lointain, c'est la politique de la ville de demain. Puisque nous avons cette responsabilité de solidarité entre les territoires, d'égalité dans l'accès aux services et de lien social, nous avons autour des collèges, donc de l'éducation, de la citoyenneté, une partie, mais avec d'autres, avec les élus locaux, avec certaines politiques nationales, nous avons à construire et à mettre en œuvre des démarches pour convaincre toutes les diversités de notre pays, de nos territoires, qu'il y a un avenir pour tout le monde, que cet avenir est difficile, mais qu'il y a un avenir pour tout le monde si on accepte nos complémentarités, nos richesses, et qu'on refonde à partir de tout ça un nouvel lien républicain, un nouvel avenir pour notre pays, dans les valeurs qui sont les nôtres, la citoyenneté, la laïcité, qui reste plus que jamais fondement de notre pays.
Est-ce que, comme Manuel Valls, vous avez peur du FN pour ces élections ?
Moi, j'ai plutôt peur de l'abstention que du Front National. C'est-à-dire que c'est vrai que la conséquence de l'abstention, c'est de favoriser en pourcentage, en tout cas en poids, le Front National dans les élections. Après, c'est comme l'a précisé Alain, c'est-à-dire qu'il y a quand même un travail à faire de fond sur les questions du lien qu'on a entre nous à la société, au rapport qu'on peut développer à la société qui doit être une chose commune sur laquelle on doit en tout cas avoir le souci de l'équilibre et de l'équité. Donc le Front National, évidemment, dans les sondages, quand on regarde les sondages, on a le sentiment qu'il sera devant. Moi, je reste convaincue que là aussi, il y aura une prise de conscience. Quand vous regardez le programme du Front National sur le canton, Il n'est pas pour les Isérois. C'est le même programme pour l'ensemble du national. C'est-à-dire qu'ils ont pris exactement le même programme et ils l'ont décliné juste avec des photos de leurs candidats locaux. Enfin, est-ce que c'est vraiment respecter les électeurs et les Isérois que de faire un programme national qui ne prend aucun engagement, aucune action concrète à destination des habitants pour lesquels les candidats se présentent? Je trouve que, enfin, en tout cas, il faut regarder de près. Moi, j'invite, en tout cas, les auditeurs à regarder le contenu du programme qu'ils proposent et de mesurer qu'il n'y a rien qui les concerne, en tout cas, ni en tant qu'Isérois, ni en tant qu'habitants du canton, et qu'on est vraiment purement dans la démagogie.
Alors, à gauche, est-ce que c'est pas le contraire? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'idées diversifiées? Vous êtes au moins trois à vous présenter l'un contre l'autre. OPS, un rassemblement des citoyens où on retrouve un parti de gauche, des Verts, un front de gauche sans le parti de gauche où on retrouve un PC. Enfin bon, c'est un petit peu...
Alors, moi, j'ai l'expérience déjà de plusieurs élections cantonales sur le secteur. C'est pas nouveau. Les élections précédentes, les forces de gauche se sont présentées dans leur diversité d'analyse nationale, parce que sur le local, on s'est toujours retrouvés, on a toujours travaillé ensemble. Alors, peut-être, je le regrette dans le contexte actuel, où les temps sont bon, un peu différents, mais j'ai pas d'hésitation. Le soir du 22... Comme les fois les élections précédentes, on se retrouvera. Nous avons validé au plan départemental une plateforme d'enjeux, de valeurs qui nous sont communes, et il y a un certain nombre de tickets PCPS sur l'agglomération grenobloise en particulier.
Vous n'avez quand même pas peur d'un deuxième tour UMPFN de ce fait?
Il y a un risque du fait de l'abstention. Je rejoins ce que disait Myriam. Notre principale inquiétude, à la fois sur les résultats électoraux, mais également pour l'avenir de notre démocratie, c'est cet éloignement de beaucoup d'Isérois, de Français, des enjeux de la démocratie et de l'importance du vote.
Très bien. Alors, il nous reste une petite minute. Et là aussi, c'est un principe d'équité qui nous est cher et auquel on est obligé. Je vais reprendre une attitude de journaliste un petit peu normale et vous poser la question qu'on attend peut-être depuis le début. Mediapart a parlé de vous avec une affaire un petit peu gênante, peut-être. Enfin, voilà, les autres candidats n'ont pas forcément tous souhaité s'exprimer dessus. C'est pas quelque chose, un fait politique majeur. Néanmoins, vous avez le droit quand même à un droit de réponse par rapport à ce qui s'est fait. Voilà, on vous reproche que chez vos parents, il y avait une employée roumaine sans papier qui prenait soin de votre maman. C'est à peu près ça.
Alors, de mes parents, puisque mon papa était encore vivant à l'époque. Oui, on m'a même reproché d'être allé en Roumanie pour l'embaucher là-bas. Pur mensonge. On m'a reproché de lui avoir signé un contrat de travail au noir. Pur mensonge. Mais malheureusement, la politique, c'est parfois, dans les périodes électorales, du niveau un peu des égouts. Je n'attendais pas ça de Mediapart. Ils ont une autre image. Je regrette qu'ils se soient livrés à cette démarche indécente qui fait beaucoup de peine à ma maman, qui me demande chaque fois que j'y vais, qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Bon, voilà, je crois que Dauphiné Libéré, je leur ai dit, a fait un travail normal d'investigation en donnant la parole, en la citant à cette personne roumaine qui a démenti 98% des allégations de Mediapart. Moi, je crois que pas de commentaire à faire là-dessus. J'ai demandé un démenti à Mediapart. Je pense que je ne l'obtiendrai pas. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais c'est regrettable que le débat politique sombre parfois à ces niveaux-là.
Vous allez vous pourvoir en justice?
Je l'ai envisagé, je l'envisage encore. Si les choses en restent là, pour être très clair, j'ai interrogé le parquet, des avocats. Ils m'ont dit que si j'avais besoin de me soulager, je pouvais y aller, mais que malheureusement, ça serait classé sans suite, ce que je déplore.
— Très bien. Et bien malheureusement, on arrive au terme de cette émission. Il ne me reste plus qu'à vous remercier chaleureusement d'être venu nous voir. Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci à vous.